Chapitre 60. Tandis que les Norokai se préparaient à une guerre totale, les festivités continuaient. Mais Crayeux était mort. Sur son trône, entouré de guerriers déchaînés, Calvaire était muré dans son chagrin et sa colère. Crayeux était mort. Lars s'empiffrait, buvait et paradait comme si ses succès devaient lui valoir le pardon. Mais le roi n'était pas d'humeur clémente. Alors que les tables débordaient de délices, du poisson, du pain, des algues, mais aussi des saucisses et du jambon rapportés par Lars, Calvaire n'avait touché à rien. Son unique mouvement consistait à plier et replier ses doigts renforcés de fer pour mieux sentir leur puissance. Tel le dieu serpent, il émit un long sifflement, mais dans le vacarme ambiant, personne ne s'en avisa. Crayeux était mort. Son chaman, son conseiller et son ami. 51 galères étaient revenues d'île Dakar, sur 100 qui avaient quitté les îles. Réparés, ces navires étaient aussi redoutables qu'avant. Si on ajoutait la flotte de Lars et plus de 70 nouveaux bateaux, les Norukai disposaient d'une armada. Si Outros tenait sa promesse, fondant sur la côte, l'ancien monde n'y survivrait pas. Chassé du continent des millénaires plus tôt et par ce chien de Sulakan, les Norokai y reviendraient en force, et sous les ordres de Calvaire, ils dévasteraient la côte. En temps normal, le roi se serait réjoui d'avance, oui, mais Crayeux était mort. Quand sa fureur dépassa le tolérable, Calvaire se leva et rugit si fort que le silence se fit en quelques secondes. Ses sujets le regardèrent stupéfiés. Puis Lars leva un poing et répondit par un rugissement équivalent. Tous les pillards l'imitèrent, faisant trembler les murs du bastion. Certes, mais Crayeux était toujours mort. Calvaire descendit de son trône surélevé pour rejoindre les Norukai surexcités. Se méprenant sur son humeur, certains lui tapèrent sur l'épaule ou dans le dos, mais il les ignora. En d'autres circonstances, il les aurait sonnés pour le compte, mais là, il avait d'autres chats à fouetter. Deux esclaves venaient d'apporter une chèvre rôtie. Rachitique, parce qu'on avait abattu presque tout le cheptel de l'île. Rien de grave, puisque le roi n'aimait pas cette viande. Pour se défouler, il avait besoin d'une cible, mais comment en choisir une? S'il avait été là, Crayeux aurait répondu une de ses mystérieuses prédictions. Mais pourquoi n'avait-il pas prévu sa propre mort? N'aurait-il pas pu l'éviter? L'attaque des Selkai, il ne l'avait pas prévue. Pareillement, il n'avait pas vu que la reine l'éventrerait comme un vulgaire poisson. Pour passer à côté de tout ça, il ne devait pas être un très bon chaman. Ou avait-il bel et bien vu quelque chose? La veille de l'attaque, pendant le sacrifice de l'esclave, qu'avait-il dit déjà? Le dieu serpent sauvera certains d'entre nous, mais je ne dirai pas lesquels, c'est un secret. Crayeux avait-il tout vu? Dans ce cas, pourquoi n'avait-il prévenu personne? Calvaire désirait fracasser une mâchoire. Mieux encore, il avait envie d'éventrer un esclave pour le regarder crever comme le pauvre Crayeux. Levant les yeux, le roi avisa Emmett, le chef de cuisine qui œuvrait au bastion avant même qu'il ait tué son propre père. Crayeux l'avait encouragé à éliminer le vieux supplice, puis à prendre le pouvoir. Éclairé par une vision, il avait même aidé à choisir le moment propice. Avec un pouvoir pareil, comment avait-il pu ne pas empêcher sa mort? La hache fend le bois et l'épée fend les os. Que signifiait cette phrase? Quelqu'un pouvait-il l'interpréter? Quand Emmett présenta aux convives un pâté truffé aux noix, Calvaire remarqua que le vieux boiteux semblait encore plus effrayé que d'habitude, sans doute parce que les invités ne les avaient pas ménagés, ses esclaves et lui. Balayant la salle du regard, le roi chercha une victime qui le consolerait un peu. Où étaient donc Bannon et la Morassite Lilin? À vrai dire, ça faisait un moment qu'il ne les avait plus vus. Comment se faisait-il qu'Ata n'ait pas encore tué sa supposée rivale? En fait, la donzelle malingre ne l'intéressait pas parce qu'il lui aurait brisé les os lors d'une étreinte même en se retenant, mais dans la situation présente, ça semblait une bonne idée. Oui, il allait éventrer Bannon, puis besogner Lila sur la table du banquet devant tous ses guerriers. Sa petite affaire terminée, il étranglerait la garce, ce qui plairait à Ata. Un tel remède de cheval devrait le tirer de son désespoir. Il regarda de nouveau, mais n'aperçut pas le couple. Obséquieux, le vieil Emmett lui présenta le pâté.
« Tu vas te régaler, mon roi. Nous l'avons préparé spécialement en l'honneur de tes victoires à venir. »
Calvaire fit valser le plat dans les airs. Saisissant l'esclave par sa queue de cheval, il le força à incliner la tête en arrière.
« Où sont Bannon et Lila? Je veux les voir !»
Le vieil homme blêmit.
« Ils sont occupés ailleurs. Oui, c'est ça, occupés ailleurs. »
Sans doute pour rendre jaloux le roi, Atta était allé minauder devant Lars. Revenant prendre sa place à la table d'honneur, elle grogna.
« Ouais, où est cette garce éthique? J'aimerais la noyer dans un seau que tes hommes auront rempli de pisse. »«
Emmett, va les chercher !»
ordonna Calvert. Le boiteux partit sans demander son reste. Au bout d'une heure, le roi s'impatienta et envoya des guerriers le ramener. Bannon et Lila s'étaient volatilisés. Après avoir fouillé le bastion, des gardes confirmèrent qu'ils étaient introuvables.
« Je ne sais rien d'eux, mon roi !»
balbutia Emmett. À son ton, Calvert sut qu'il mentait. Furieux, il propulsa l'esclave sur la table principale, puis lui cogna la tête contre le plateau. Ensuite, il dégaina son couteau, l'enfonça dans l'épaule de sa proie et l'épingla au bois comme un vulgaire papillon.
« Roi Calvert, je ne sais rien, je te le jure !»
La séance de torture continua. À sa grande surprise, Calvert en oublia presque son chagrin. Quand il eut coupé une oreille et deux doigts au vieux chef de cuisine, un guerrier entra dans la salle pour faire son rapport.
« Il manque une barque de pêche, mon roi. Quelqu'un l'a volée. »«
Non, non !»
s'écria Emmett, maculé de sang.
« Les amarres ont pu casser, et avec la tempête... »«
C'est ça, ouais. Moi, je crois plutôt que ces deux minables se sont évadés. »
Perdant patience, Calvert coupa l'autre oreille d'Emmett, puis il la saisit entre le pouce et l'index et la montra au vieil homme.
« Dis-moi ce que tu sais, sinon je continuerai à te découper en morceaux. »
Emmett finit par craquer. Retirant la lame qu'il épinglait à la table, Calvert l'écouta expliquer comment il avait aidé Bannon et Lila à quitter l'île. Comme si sa confession l'avait soulagé, le chef de cuisine glissa de la table, tomba à genoux et implora le roi de l'épargner. L'humeur de plus en plus sauvage, Calvert ordonna qu'on fasse venir tous les esclaves.
« Ma flotte va bientôt appareiller, »
annonça-t-il.
« Je vous ordonne de préparer un festin en l'honneur de notre future victoire. »
Les Norukai éclatèrent en vivats. Quand Calvert précisa ses instructions, les esclaves couinèrent et Emmett éclata en sanglots. Alors, le roi s'avisa qu'il avait l'estomac dans les talons. Lars et cinq autres capitaines importants siégeaient à la table d'honneur où Atta restait assise à la gauche du roi. Avec ses yeux bovins, elle hasarda une œillade lascive, mais Calvert n'avait d'yeux que pour les esclaves qui entraient dans la salle. Comme s'il portait un blessé sur une civière, il ployait sous le poids d'un énorme plat de service. Sans lever les yeux sur le roi, ils posèrent devant lui ce délice de viande rôtie. Dans le four où il avait cuit, le corps d'Emmett était recroquevillé en position fétale. La terreur et la douleur donnant un goût très spécial à la viande, le boiteux avait été rôti vivant.
« C'était un vieux type !»
lâcha Calvert.
« Je parie que ça sera de la carne !»
Du bout de son couteau, Atta piqua la chair noircie qui rendit un peu de jus.
« Je savourerai ce plat comme je savourerai ton triomphe, le roi Calvert !»
Elle coupa une tranche dans la cuisse d'Emmett et la piqua au bout de sa lame avant de la tendre à Calvert. Le roi accepta l'offre et mordit de bon appétit dans le morceau de choix.
« Pas mauvais du tout, »
admit-il.
« Ce vieux type a fait le service au bastion pendant des années. Et à présent, on fait le service avec lui. Venez tous et mangez. Ce sont nos dernières ripailles avant la guerre. »
Les Norukai fondirent sur le plat et désossèrent la charogne du vieil esclave.